Le journal vous est présenté par Maïwenn Bordron.
Bonsoir. Jean-Luc Mélenchon dénonce une offensive politique, je cite, de la Macronie, et réclame l'annulation des perquisitions menées au siège du parti La France Insoumise il y a 3 jours. Le député de Marseille a organisé une conférence de presse cet après-midi. Il s'en est pris violemment à la presse suite à des révélations sur son ancienne conseillère Sophia Chikirou. Un accord salarial conclu à Air France. Les syndicats se sont entendus aujourd'hui avec la nouvelle direction de la compagnie aérienne sur une hausse de salaire de 2% en 2018 et 2019. Pas suffisant pour le SNPL, le premier syndicat de pilotes d'Air France, qui n'a pas signé l'accord avec la CGT. Nouveau tournant dans le bras de fer qui oppose la Pologne à l'Union européenne. La Cour de justice européenne lui demande de suspendre sa réforme de la Cour suprême. Plus d'explications avec notre correspondant à Bruxelles. Et enfin, plus que quelques heures avant le début des élections législatives en Afghanistan, elles sont organisées dans un contexte très incertain après une nouvelle attaque meurtrière hier menée par des talibans dans la province de Kandahar. À la fin de ce journal, nous recevons Gilles Doron-Soro, professeur en sciences politiques et spécialiste de l'Afghanistan. Jean-Luc Mélenchon contre-attaque après l'audition aujourd'hui de son ancienne conseillère Sophia Chikirou. Elle était entendue par la police anticorruption dans l'enquête sur les comptes de campagne de la France insoumise au moment de la présidentielle. Lors d'une conférence de presse cet après-midi, Jean-Luc Mélenchon a également réagi à la publication d'une enquête de la cellule d'investigation de Radio France sur de potentielles surfacturations de la société Mediascope de Sophia Chikirou. Le chef de file de la France insoumise a mené ce qu'il a qualifié de contre-offensive médiatique, Sophie Delpont.
Jean-Luc Mélenchon qualifie Radio France de radio d'État et multiplie les attaques envers les journalistes accusés de prendre le relais d'une stratégie d'affaiblissement de la France insoumise.
On nous accuse de n'importe quoi, n'importe comment, en prenant l'air bouffi et important sur un plateau de télévision.
Il fustige ce qu'il qualifie d'accusation calomnieuse et d'investigation disproportionnée de la part de la justice.
Il est inutile de persécuter des dizaines de gens puisque celui qui donne les ordres est devant vous. Il suffit d'en attraper un. Mais encore faut-il avoir des motifs pour le faire. Et il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. Nous sommes des gens honnêtes. Nous n'avons volé personne. Nous n'avons rien sous-facturé. Nous avons passé notre temps à avoir la trouille de sous-facturer. Nous avons déclaré jusqu'à l'air qu'on respirait. Et nous n'avons pas demandé qu'on nous rembourse tout ce que nous avons dépensé. Nous avons demandé 6 millions de remboursements pour 8 millions de dépenses.
À propos de Sophia Chikirou, la directrice de Mediascope, dont les facturations sont mises en cause, interrogée pendant une bonne partie de la journée hier par les policiers anticorruption à Nanterre, Jean-Luc Mélenchon a réitéré tout son soutien envers elle.
Je lui renouvelle l'expression de ma confiance totale. Et mes félicitations pour les performances qu'elle nous a permis d'atteindre dans cette campagne. Il est clair à partir d'aujourd'hui que pour faire durer le plaisir, on a choisi un bouc émissaire, Madame Sophia Chikirou. Je demande quel autre chef d'entreprise est traité de cette manière. Est-ce qu'il s'agit du PDG de Monsanto à qui on reprocherait le glyphosate? Est-ce qu'il s'agit de telle ou telle société qui a commis des crimes et de la fraude fiscale? Non.
Sophia Chikirou n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle devrait être à nouveau interrogée lundi par la police, a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Sophia Chikirou qui doit diriger la communication de la France insoumise pour les élections européennes.
Et le syndicat national des journalistes de Radio France a répondu aux attaques de Jean-Luc Mélenchon dans un communiqué aujourd'hui. Le SNJ dénonce les propos du chef de file de la France insoumise visant les journalistes de la cellule d'investigation de Radio France, traités d'abrutis et de menteurs. Fin de l'enquête sur les emplois présumés fictifs du couple Fillon. Les juges d'instruction l'ont annoncé aujourd'hui, 18 mois après la mise en examen de l'ancien candidat à la présidentielle. Il revient désormais au parquet national financier de prendre ses réquisitions. Les juges décideront ensuite de renvoyer ou non François Fillon et son épouse devant le tribunal correctionnel. Le parti La République En Marche a un nouveau patron depuis ce soir. Il s'agit du communicant Philippe Grandjean. Ce proche d'Emmanuel Macron a été choisi par le bureau exécutif pour assurer l'intérim à la tête du parti jusqu'au 1er décembre. Philippe Grandjean remplace ainsi Christophe Castaner, nommé ministre de l'Intérieur en début de semaine. L'horizon s'éclaircit pour Air France. La direction de la compagnie aérienne a trouvé trouver un accord majoritaire cet après-midi avec 5 des 7 syndicats sur une hausse des salaires de 2% en 2018 et 2019. Il aura fallu un mois pour que le nouveau directeur général du groupe Air France KLM, le Canadien Ben Smith, mette fin à ce conflit qui dure depuis 6 mois. La CGT et le SNPL, le premier syndicat de pilotes d'Air France, n'ont pas signé l'accord. Le président du SNPL, Philippe Évin, se justifie.
Il reste encore des ambiguïtés dans ce texte et on peut dire que, à coup identique, malheureusement, la direction n'a pas saisi la chance d'obtenir quasiment l'unanimité des syndicats. Il ne manquait pas grand-chose, c'était pas une question d'argent, c'était une question de transparence et de clarté dans l'accord. On peut dire que c'est un peu dommage.
Donc c'est pas personnel vis-à-vis de Ben Smith.
Rien de personnel vis-à-vis de Ben Smith, avec qui nous avons beaucoup discuté et dialogué ces dernières semaines. On lui reconnaît des qualités, hein, sans conteste. Maintenant, il faut faire le pas. On a besoin d'une direction finalement qui soit capable de montrer, après des années finalement de conflits avec notre management, une direction qui soit capable de montrer qu'elle peut dire oui au syndicat après des années où on a dit non, plutôt que de faire une démonstration de force. Donc non, pas de problème personnel, mais on souhaite qu'il aille un peu plus loin dans sa volonté de construire et surtout de montrer qu'il est en cohérence avec sa volonté de mettre en place un nouveau dialogue.
Philippe Évin, le président du SNPL, il répondait à Isabelle Raymond. La Cour de justice de l'Union européenne demande à la Pologne de suspendre sa réforme controversée de la Cour suprême. Une mesure que Varsovie doit immédiatement appliquer en attendant un jugement définitif sur le fond. Cette réforme porte atteinte à l'indépendance du système judiciaire polonais selon la Commission européenne. À Bruxelles, les explications de notre correspondant permanent, Quentin Dickinson.
Il y a 6 mois, le gouvernement polonais promulguait une loi mettant d'office à la retraite les juges de la Cour suprême du pays ayant atteint ou dépassé les 65 ans, quelle que soit la durée du mandat qu'il leur restait à assurer. Parallèlement, le nombre de juges de la haute instance était porté de 90 à 120, les nominations faisant désormais l'objet de décisions politiques, en l'occurrence sous forme de décret du président de la République. Gardienne des traités, la Commission européenne dénonce alors cette atteinte évidente à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire, principe élémentaire de toute démocratie parlementaire, et cite les autorités polonaises à comparaître en référé devant la Cour de justice de l'UE à Luxembourg. Compte tenu de l'urgence, puisque les limogeages et les nominations ont déjà commencé, la vice-présidente de la Cour européenne vient de rendre une ordonnance provisoire enjoignant au gouvernement polonais de se remettre en conformité dans les plus brefs délais avec les valeurs cardinales de l'Union européenne. Après avoir entendu les parties au litige, la Cour rendra une ordonnance définitive à une date ultérieure. Si le gouvernement polonais devait s'obstiner, l'UE ne pourrait que constater que les personnes physiques ou morales, comparaissant devant n'importe quel tribunal en Pologne, n'auraient pas accès à un système judiciaire indépendant. Pour la même raison, les mandats d'arrêt européens lancés par un juge polonais ne pourraient plus être suivis d'effet.
Jarosław Kaczyński, le chef du PiS, le parti conservateur au pouvoir, a annoncé que la Pologne ferait appel de cette décision européenne. Nous devons trouver des solutions avec l'Italie, même si nous ne sommes pas d'accord. Déclaration de Pierre Moscovici aujourd'hui. Le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires s'est exprimé après une visite de 2 jours à Rome. Objectif, réduire les tensions entre l'Italie et ses partenaires européens au sujet du déficit public et des dépenses italiennes. Selon Pierre Moscovici, la Commission européenne n'a pas encore pris de décision sur le projet de budget du gouvernement italien. L'Italie est sommée de répondre à ses observations d'ici lundi. L'Italie dans le viseur de la Commission européenne, mais la France pourrait l'être également. Bruxelles a officiellement demandé à Paris des précisions sur son budget 2019. La France serait susceptible de ne pas respecter les règles européennes à la lettre. Un sommet sur la Syrie à 4 à Istanbul le 27 octobre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan annonce aujourd'hui qu'il recevra le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et le président russe Vladimir Poutine. La situation à Idlib au nord-ouest du pays, dernier bastion de l'opposition, et le processus politique censé aboutir à un règlement du conflit doivent notamment être abordés. L'Élysée, dans l'après-midi, a confirmé la présence d'Emmanuel Macron à ce sommet, tout en posant des conditions. Le président français se rendra à Istanbul si aucune offensive militaire à Idlib n'a lieu d'ici là. Les précisions d'Aurélien Colli.
Il y a la guerre qu'il faut gagner et c'est chose faite pour Vladimir Poutine qui a permis au régime de Bachar al-Assad de se maintenir et de reconquérir une bonne partie de son territoire. Mais il y a la paix qu'il faut réussir et ça c'est beaucoup plus compliqué. Vladimir Poutine le sait, lui qui a déjà fait un compromis sur Idlib en refusant l'assaut meurtrier rêvé par Damas, dont il aurait dû assumer la responsabilité, pour privilégier un accord avec la Turquie par un des rebelles modérés, crédible pour un processus de paix. Mais le chef du Kremlin le sait aussi, pour stabiliser et reconstruire la Syrie, les Occidentaux et leurs alliés, les monarchies du Golfe, sont également incontournables. Ni son pays ni l'Iran n'ont les moyens de financer un tel chantier. Alors après les bombes et un processus politique écarté, retour aux discussions avec les Américains d'abord, via la Turquie. Washington a salué l'accord sur Idlib, mais garde un levier contre la réhabilitation du régime syrien, des troupes dans l'est du pays, la région riche en ressources naturelles indispensables à Damas. Discussion ensuite avec les Européens, là encore via la Turquie, avec ce sommet où l'on reparlera enfin processus politique, sans que le départ de Bachar al-Assad soit une condition préalable, car la France et l'Allemagne, sur la touche, y ont tout intérêt, et la Russie désormais aussi.
Les précisions d'Aurélien Colli. L'Afghanistan se prépare à voter demain des élections législatives organisées avec 3 ans et demi de retard. Dans certaines provinces, comme à Kandahar, elles ont encore été repoussées d'une semaine suite à une nouvelle attaque des talibans hier. 3 personnes ont été tuées, dont le chef de la police locale, le général Abdul Razik, l'homme fort de la province, considéré comme étant un bouclier à l'insurrection talibane. Invité de ce journal, Gilles Doron-Soro, professeur en sciences politiques à l'Université Panthéon-Paris 1, Sorbonne, spécialiste de l'Afghanistan. Bonsoir.
Bonsoir.
Gilles Doron-Soro, l'organisation de ce scrutin semble chaotique et précipitée. Pourquoi les autorités afghanes n'ont pas repoussé les élections dans leur ensemble ?
Repousser l'élection aurait été difficile pour 2 raisons. D'abord, c'est déjà 3 ans que les élections auraient dû avoir lieu, si on s'en tient à la Constitution. Le deuxième problème, c'est que les élections présidentielles ont lieu théoriquement en avril prochain. Et donc, ça aurait fait des élections coup sur coup à quelques mois d'intervalle. Donc, c'était en pratique à peu près impossible de les repousser.
Là, c'est repoussé d'une semaine. Donc, finalement, attendre une semaine de plus. Les électeurs ont attendu 3 ans et demi. Ils auraient sans doute pu attendre une semaine de plus.
Alors, une semaine de plus, oui, mais ça, on va rien régler fondamentalement en une semaine. L'assassinat du général Razik à Kandahar n'est pas en tant que tel un facteur d'empêchement des élections sur Kandahar. Il y aura des effets déstructurants sur plusieurs mois, c'est clair, mais dans l'immédiat, ça ne change pas vraiment la donne. La province où, en fait, les élections ont été annulées, c'est la province de Ghazni. Elles ont été repoussées, en fait, là, pour plusieurs mois. Parce que les talibans ont pris la ville de Ghazni en août dernier et ils contrôlent de facto 80 ou 90% de la province, en tout cas de la partie pachtoune de la province. Donc là, c'était pratiquement impossible. Donc de toute façon, il n'y a pas d'amélioration fondamentale de la sécurité à attendre. Donc vous voyez qu'on fasse les élections tout de suite, un peu après, ça ne change pas grand-chose fondamentalement.
Vous parliez de l'élection présidentielle d'avril 2019. Est-ce que pour le pouvoir afghan, c'était aussi une façon, en organisant ces élections législatives, en les maintenant, une façon de montrer à la communauté internationale, aux pays voisins, que l'Afghanistan peut mener à bien, peut organiser des élections ?
Oui, ça fait partie d'une tentative pour retrouver un peu de crédibilité internationale, donc de rentrer un peu dans les clous de la Constitution, puisqu'on se souvient qu'après l'élection présidentielle de 2014, on n'a pas eu de résultat. Il y a eu un accord entre les 2 candidats du deuxième tour, mais il n'y a pas eu de résultat proclamé. Donc il y a eu un arrangement pas très constitutionnel. Donc au moins retrouver un Parlement légal, c'était rentrer un peu dans les clous de la Constitution. C'est vrai aussi que on a un problème de crédibilité par rapport aux donateurs internationaux et notamment dans un moment où les États-Unis sont en train visiblement de lâcher le gouvernement Ghani puisqu'ils ont entrepris sans consultation avec leur allié afghan de négocier directement avec les talibans.
Donc demain, 5000 bureaux de vote ont été mis en place. Ils vont être surveillés par plus de 50 000 membres des forces de l'ordre afghanes qui seront positionnés un peu partout dans le pays. Est-ce que ça sera suffisant pour assurer le bon déroulement de ces élections ?
Bon, clairement non. Ce qu'on espère, c'est que le taux de participation sera pas trop faible. Donc un succès, ce serait à peu près 25% de participation. Il est clair que sur plus du tiers des districts, la participation électorale est à peu près impossible. En dehors même de la province de Ghazni, que je mentionnais tout à l'heure, les provinces du sud, de l'est, vont avoir des taux de participation extrêmement faibles. Les seuls endroits où, sauf campagne d'attentat, c'est pas du tout exclure, hein, mais sauf campagne d'attentat, les gens peuvent voter assez facilement, c'est les grandes villes, Mazar-e-Sharif, Kaboul, bien sûr, Jalalabad jusqu'à un certain point, peut-être Kandahar, s'il n'y a pas d'effet trop massif après l'assassinat du chef de la police. Bon, voilà. Mais dans les campagnes, ça va être très difficile de voter. Ouais.
Parce que c'est vrai que les électeurs se retrouvent face à une situation qui n'est guère rassurante pour eux. 10 candidats, il me semble, assassinés avant les élections. Ce chef de la police de Kandahar assassiné hier, alors que c'était l'homme fort de la province, ça n'incite pas vraiment les électeurs à se rendre aux urnes.
Non, alors il y a l'aspect de sécurité, mais je crois qu'il y avait des Afghans probablement qui auraient pris le risque. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est la progressive désillusion, c'est-à-dire que après le renversement des talibans par les Américains en 2001, il y a eu véritablement un engouement pour le vote. Les gens étaient prêts à voter, il y avait des taux de participation relativement importants qui ont diminué progressivement en raison des fraudes massives, décrédibilisées des élections, du fait aussi de la corruption générale du système. Donc les gens, en dehors des problèmes de sécurité, les gens ne sont pas tellement prêts à risquer finalement leur vie ou des ennuis par la suite, juste pour aller voter pour un système dans lequel ils croient plus vraiment.
Merci Gilles Doron-Soro pour vos précisions. La météo de votre samedi, un temps ensoleillé sur toute la France. Il fera 19 à Brest et 23 à Marseille.